Bien le bonjour à tous, vous êtes bien dans l'hebdo des lycéens, cette émission qui le vendredi midi vous présente une synthèse de l'actualité telle qu'elle est vue par les lycéens de la cité scolaire Paul Scarron. Ils sont en terminale, ils ont donc autour de 17-18 ans et ils ont un regard sur l'actualité qui est évidemment un peu décalé par rapport à celui que l'on retrouve sur l'ensemble de nos médias nationaux, radio, télé ou presse écrite. Autour de la table nous avons Justine, Laurine, Antoine, Stéphanie, Chanice, Lise, Pierre et Audrey. Et parmi les sujets qui ont été choisi aujourd'hui, il y en a évidemment un qui est en rapport avec le format même de la journée, et c'est Justine qui va nous rappeler donc ce cas de particulier ce vendredi-là.
Donc aujourd'hui, vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette journée est malheureusement encore nécessaire car en 2011, une Européenne sur quatre subit des violences domestiques, une Française sur dix subit des violences conjugales et une de ces femmes meurt tous les quatre jours. En Europe, les législations sur les violences faites aux femmes divergent d'un pays à l'autre. Dans certains États, le viol dans le cadre du mariage n'est pas reconnu, alors que dans d'autres États, une police est spécialement formée pour appréhender les maris violents. La France ne va malheureusement pas dans la bonne direction, puisque le viol peut être dénoncé au maximum 3 ans après les faits au lieu de 10 ans pour les autres délits. Ce ne sont aussi que des associations qui prennent en charge les femmes battues et non des organismes plus officiels. Cette journée a son importance car encore trop peu de femmes portent plainte contre leurs compagnons violents par crainte, par manque de moyens et autres problèmes une fois le domicile familial quitté. Et donc pour finir, pour cette journée, une nouvelle campagne de publicité contre les violences faites aux femmes a été lancée.
Alors les violences, tu as parlé beaucoup de violences physiques. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que des violences physiques dont les femmes sont victimes?
Je pense que oui, il y a des violences psychologiques, mais ça va avec la violence physique parce que ça laisse des traces. Enfin, des traces sur le corps, on est obligé de les cacher. Enfin, ça va ça va ensemble, je trouve.
Et l'insulte ou le fait de ne pas considérer de façon correcte ou en tout cas à égalité une femme, ne serait-ce que dans le couple ou au travail, ou
oui,
je pense que ça existe aussi, ça.
Oui, ça fait c'est de la violence psychologique du moment où c'est pour enfin sans aucune raison toute la journée. Enfin. Juste dans le seul but de rabaisser, quoi.
Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, dans votre génération, que les jeunes filles sont considérées de la même façon que les jeunes garçons, ou est-ce que c'est pas simple aussi d'être jeune fille aujourd'hui?
Non, c'est certainement pas simple. Enfin, ça n'a jamais été simple de toute façon, et on n'en est pas aux violences non plus. Mais c'est difficile quand même d'être une jeune fille, même en Europe, dans les pays qui sont dits développés. Enfin, c'est difficile quand même.
Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui peut être difficile? Est-ce que c'est difficile partout? Est-ce que tu penses que c'est plus difficile dans... C'est la même chose si on habite Sille-Guillaume ou si on habite dans une banlieue ou...
Non, je pense que c'est la même échelle à peu près partout. Enfin... on reprend des stéréotypes sur les femmes, toujours au niveau des conversations qu'on peut avoir, enfin du travail aussi, des études, enfin c'est assez discriminé. On différencie beaucoup les hommes et les femmes.
Et tu penses que la discrimination est une forme de violence?
Oui.
Hein, on arrête là-dessus, hein, sur cette petite chose à méditer, hein, pour nos amis auditrices et auditeurs. Quand je dis petite chose, c'est parce que la phrase est courte, mais le problème, lui, est grand et large. Un dernier détail, quand même, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a une enquête qui vient tout juste de sortir sur les salaires, sur la différence entre salaires, hein, sur les salaires entre les hommes et les femmes. Et la France est un des pays les plus mal placés sur le fait que les femmes soient moins payées que les hommes à compétences égales et à métier égal. On va partir avec Laurine sur un sujet récurrent, donc que l'on retrouve depuis pas mal d'années, et qui a un truc étrange, c'est que selon les partis politiques, par exemple, on n'est pas toujours forcément d'accord. C'est ce qu'on appelle les fameuses questions de société, où la division n'est pas uniquement politique. De quoi vas-tu nous parler, Laurine?
Donc, mardi 22 novembre a été signé pour que le mariage homosexuel figure au programme de la présidentielle de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a donc six responsables UMP qui sont pour cette proposition. Et quant au secrétaire général de l'UMP, donc c'est-à-dire Jean-François Copé, lui, il est ouvert au débat.
C'est quelque chose qui paraît quand même nouveau, apparemment. Il y a beaucoup de députés à l'UMP. Il y en a 6 qui ont signé. Est-ce que tu penses que le fait que Jean-François Copé dise qu'il est ouvert au débat, ça va favoriser le débat et faire avancer cette idée ?
Bah, pourquoi pas. Après, ça va dépendre aussi des autres personnes, si elles sont pour ou contre.
À ton avis, quels sont les arguments de ceux qui sont réticents à cette réforme, donc à accepter le mariage homosexuel ?
Ceux qui sont pour ?
Non, ceux qui sont contre.
Contre.
Oui, je sais bien, c'est beaucoup plus embêtant de se mettre dans la peau des autres. Hein, toi, tu es plutôt pour.
Ah oui, totalement.
Si tu en parles, c'est que tu es plutôt pour. Oui. Donc, quelque part, est-ce que tu peux imaginer quels sont les arguments qu'utilisent ceux qui sont contre ?
Bah non, après, je sais pas.
Les autres ? Est-ce que vous avez une idée ? On n'est pas dans, c'est pas le débat du jour, hein. Mais éventuellement, sur ce sujet-là, est-ce que quelqu'un pourrait trouver tout simplement une excuse à ceux qui seraient contre ? Bon, je pense qu'en gros, on est plutôt pour globalement. Ouais. Oui ? Alors,
bah, j'imagine que ça peut être un problème de génération, puisque c'était peu courant avant. Et c'est peut-être le fait de mal connaître ce que c'est que l'homosexualité qui fait qu'on l'ignore, qu'on l'insulte. Enfin,
ouais.
Je pense que c'est ça, c'est le fait de mal connaître ou de pas avoir vécu dans un contexte où c'est assez.
Élise.
Bah peut-être aussi parce que le mariage c'est plutôt un principe relativement religieux. Donc voir des homosexuels de la part de certains religieux, ça peut paraître choquant. Le PAC, c'est peut-être plus abordable pour certaines personnes.
Oui, c'est ça. On est bien sur une logique, on va dire, un peu de valeurs religieuses. Le mariage tel qu'il est conçu dans notre société, comme on dit, judéo-chrétienne, c'est un homme et une femme qui s'unissent, quoi. Voilà. Donc c'est en ça que ça secoue un certain nombre de valeurs. Donc toi, tu penses que ce serait bien, Laurine ?
Oui. Parce que je vois pas pourquoi nous, hétéros, on aurait le droit et pas des personnes homosexuelles alors qu'elles sont totalement comme nous. Enfin, je vois pas pourquoi elles auraient pas les mêmes droits que les autres.
Et la même reconnaissance.
Voilà.
En tout cas, c'est un vrai débat qui va sûrement se prolonger, puisque si des députés UMP secouent, comme on dit, le cocotier dans leur propre camp, c'est bien. Hein, c'est bien, oui. Que ce débat s'installe. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a un débat. Voilà. Hein, dans tous les cas, nous, on n'a pas à prendre position ni pour ni contre, même si, bon, on le sent bien, on est plutôt pour globalement. On l'a bien senti qu'on avait du mal à trouver des arguments contre, mais il n'empêche que ce qui est sain, c'est qu'il y ait débat sur cette question et qu'on ait de moins en moins donc de discrimination, comme tu disais tout à l'heure. On parle de discrimination à l'égard des femmes, mais également les discriminations à l'égard des homosexuels, c'est des choses aussi importantes. Antoine.
Oui.
Antoine, tu vas revenir de ton côté sur un fait divers tragique qui nous concerne localement. Peux-tu nous en dire plus ?
Tout à fait. Alors Pascal Duret, un maçon de 39 ans, a été condamné hier, après une délibération de 14 heures, à 30 ans de réclusion assorti d'une peine de sûreté de 20 ans et 10 ans de suivi socio-judiciaire. Pour les meurtres de sa femme et de ses 3 enfants dans l'incendie de leur maison à Auvers-le-Hamon en janvier 2009. Donc l'homme s'était enfui de la maison, laissant périr sa famille à l'intérieur, puis s'était rendu quelques jours après à la police. Selon sa version des faits, il ne pouvait pas vivre sans sa femme qui voulait le quitter.
Alors, si tu retiens ce fait-là, c'est soit que tu es passionné par les faits divers, ou alors c'est le côté sartois qui...
Ouais, ça s'est passé en Sarthe.
Oui, alors explique-nous.
Bah, ça m'avait choqué à l'époque et je voulais en parler aujourd'hui.
C'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait la une de la presse locale, mais oui. Même nationale, oui.
Oui.
T'avais quel âge à l'époque ?
Bah, il y a 2 ans, donc 17, moins 2.
Et cette affaire-là, tu... voilà, ça c'est pour dire. La prochaine fois, tu me poseras une question, moi stupide. Je le note. Ouais. Mais à l'époque, est-ce que tu te souviens de la place que cette info avait à la télé ?
Bah, elle faisait la une dans tous les journaux et dans toutes les infos.
Et à ce moment-là, tu suivais cette info parce qu'encore une fois, elle était sartoise ou à cause du fait qu'il y avait toute une famille qui était touchée ?
Bah, les deux. J'étais très choqué que ça se passe déjà en Sarthe et qu'ils puissent faire ça.
Alors, on en est où dans le procès, là ?
Donc là, il encourt 30 ans de prison.
D'accord. Mais c'est pas encore décidé, délibéré.
Pas totalement.
Non. D'accord. Ok. Donc on suivra encore cette affaire qui concerne Auvers-le-Hamon. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, sous le pays d'Isée, chez nous, on voulait installer en dessous de la roche granitique une magnifique poubelle nucléaire. Alors ça, c'est les déchets qu'on voulait enfouir chez nous. Il y a des déchets dont on a parlé aussi récemment, et c'est Stéphanie qui nous en parle.
Oui, alors mercredi à Valogne, dans la Manche, le train de déchets radioactifs, est finalement parti en direction de l'Allemagne. Donc il y a eu des manifestants anti-nucléaires, donc comme Greenpeace, qui ont essayé par tous les moyens de perturber le départ du train, notamment en déformant des rails ou en brûlant des boîtiers électriques. Ce train qui transporte des déchets radioactifs, donc 130 tonnes de déchets vitrifiés plus exactement, partait de l'usine Areva, qui est le premier site mondial pour le recyclage des combustibles nucléaires usés. Donc l'usine traite les déchets pour les vitrifier, donc ils les fondent avec du verre pour le transport. D'ailleurs, ce transport est le 12e et dernier retour de déchets vitrifiés vers l'Allemagne. Il faut tout de même savoir qu'entre 1973 et 2005, Areva La Hague a reçu 5483 tonnes de combustible usagé en provenance des centrales allemandes.
Alors, sujet qui a été chaud, on peut dire, sur le terrain du côté de Valogne et puis dans les médias. Est-ce que tu penses que c'est le fait de transporter des déchets comme ça, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai danger ou pas? Est-ce qu'en gros, ceux qui font ces transports sont des gens irresponsables ou est-ce qu'ils ont bien pensé à tout? Ça pose quoi comme problème?
Justement, ça peut faire peur parce que bon, même si les déchets ils sont vitrifiés, on ne sait pas s'ils peuvent émaner des nuages radioactifs ou ce genre de choses. Donc, c'est des déchets d'Allemagne qui viennent en France, donc ça fait quand même un sacré trajet. Donc, on peut se demander si ça peut provoquer des risques ou ce genre de choses. Ça peut être inquiétant, quoi.
Le fait que ce soit fait en France parce qu'on maîtrise cette technologie, c'est donc un avantage économique. Mais évidemment, ça amène le transit de toutes sortes de produits radioactifs. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir une activité économique qui se développe avec ce risque ou ne pas avoir de risque du tout? Compliqué comme question.
Très compliqué. C'est sûr que ça peut être bien au niveau économique, mais après, il faut aussi penser peut-être à la santé des personnes. Parce que ils peuvent aussi faire ça en Allemagne, quoi, et ça les gens encourraient moins de risques peut-être au niveau nucléaire, au niveau de la santé.
Enfin bon, ce qui pose un problème, c'est tout simplement qu'il y ait des déchets, c'est clair. Et puis surtout que peut-être on n'est pas pensé suffisamment longtemps à l'avance à ce qu'on allait faire de ces fameux déchets dont on a pour quand même quelques milliers d'années. Et puis l'information des populations sur la réalité de ce qui est transporté. Donc, est-ce que tu trouves que les manifestants, ils avaient raison d'avoir recours à des, on va dire, une participation un peu forte, on peut dire violente éventuellement? Est-ce qu'ils ont raison de faire donc ce battage pour qu'on en parle ou pas? Est-ce que c'est too much, quoi? Voilà, c'est ça la question.
Mais de toute manière, aujourd'hui, si on ne fait pas de manifestation ou si on ne se fait pas entendre, rien ne se passe, rien ne bouge. Donc il faut le faire pour que les gens en parlent et que ça fasse bouger les choses. Donc
le plus important, ce que tu dis, c'est pas les faits, c'est que ça entraîne en fait du débat, de la réflexion, c'est la démarche citoyenne. Ok, c'est vrai que ça soulève pas mal de problématiques, cette histoire, donc des déchets radioactifs. On va avec Shanice, on va à l'hôpital. Quoi de neuf à l'hôpital, Shanice?
Depuis 2 ans, dès qu'un patient quittait un service quelconque pour aller au bloc opératoire, on lui mettait un bracelet sécurisé, impossible à enlever, avec une étiquette issue de son dossier informatisé. Le seul moyen de s'en débarrasser était de le découper, mais bientôt, tout patient arrivant au centre hospitalier pour subir une intervention se verra poser un de ces bracelets qu'il gardera toute la durée de son hospitalisation. Cela permettra d'éviter les erreurs car précédemment, l'identification se déclinait oralement et il suffisait d'une erreur d'orthographe pour ne pas retrouver un dossier. Et dans le doute, on devait recommencer toutes les analyses. Ainsi, on pourrait éviter les pertes de temps et de matériel.
Ça te paraît positif, cette nouveauté ?
Oui, je pense oui, que ça peut être bénéfique pour tout le corps médical et puis pour les patients même.
Oui, et le corps du malade aussi. Oui. Bien. Tu as déjà entendu parler d'affaires de gens qui, enfin de médecins qui avaient finalement opéré des malades avec.
Oui, des erreurs qui sont survenues. Ils se sont trompés de patient ou le nom n'était pas le bon et
on faisait une opération qui ne devait pas être faite. Voilà. Oui, ça peut arriver. Bon, c'est vrai que si on peut éviter ce genre d'erreur, c'est quand même pas plus mal. Alors, les médecins, évidemment, ils réfléchissent aussi sur leur fonction. Et Lise, justement, voudrait nous parler d'un livre qui est sorti récemment. Quelques mots sur ce médecin qui réfléchit à travers un livre.
Oui, donc on va parler du chirurgien cardiaque très célèbre Alain Deloche. Donc c'est un éminent chirurgien français de 71 ans. C'est le chef du pôle cardiaque vasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ce chirurgien est aussi célèbre par sa très belle carrière que par le fait étonnant qu'il est cardiaque. En effet, comme il l'a dit cette semaine, il a passé sa vie à réparer plus de 20 000 cœurs, mais n'a jamais pensé à faire des analyses pour lui-même. Le fait est qu'il avait un problème au cœur nécessitant une opération immédiate. Donc c'est le fondateur de Médecins du Monde, Médecins sans frontières et de la chaîne de l'espoir. Il accepte cette intervention et après cette intervention, il a sorti un livre en octobre dernier sur le sujet des relations patient-hôpital afin de dénoncer le manque de personnel et de moyens. C'est donc un homme hors norme, adepte de l'hôpital public depuis plus de 40 ans, qui dit la vérité sur les hôpitaux, comme l'indique le titre « Dites-moi la vérité, docteur. Hôpital, un grand chirurgien brise le silence ». Il est à 18,05 € aux éditions Robert Laffont.
Voilà, donc on peut effectivement signaler ce livre. Tu l'as pas acheté encore ce livre ?
Non.
Est-ce que tu vas l'acheter ?
Je vais me renseigner, je vais voir.
Ou
je vais au moins les feuilleter.
Tu vas l'emprunter à quelqu'un, ce sera encore mieux.
C'est possible.
Voilà. En tout cas, oui, ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a fait des opérations et qui après va la subir. Quoi. Donc, dans tous les métiers, ce serait très bien que ce soit comme ça. On pourrait imaginer que nous, profs, c'est quand on se retrouve en situation d'élève, ce qui peut arriver sur des stages de formation professionnelle, c'est vrai qu'à un moment, ça interroge aussi sur la façon dont on se positionne par rapport aux autres. Et je pense que dans tous les métiers, c'est comme ça. C'est intéressant d'avoir à réfléchir selon qu'on est celui qui fait ou celui qui reçoit. Bon, eh ben, Pierre a choisi une info qui est intéressante à cette heure-là, alors que nous sommes entre 12h et 13h en direct pour l'instant, sur Fréquencier sur le 97.9. Voilà, une petite suggestion pour les repas, c'est ça, non, Pierre ?
Ouais, tout à fait. au Pakistan, la loi autorise un homme à avoir jusqu'à 4 épouses. Mais celui-ci doit, pour avoir une nouvelle épouse, demander l'avis de sa ou ses autres femmes. Cependant, il est avéré que dans les faits, cette loi n'est pas toujours respectée, au grand dam des dames qui parfois n'hésitent pas à se venger.
Alors jusqu'à présent, on se demande pourquoi le lien avec l'heure de repas.
Oui, ça arrive, ça vient. C'est ce qu'il s'est passé jeudi au Pakistan. Une dame de 32 ans, après avoir appris que son mari allait la délaisser pour une autre, a tué le dit mari. Avis aux Pakistanaises, cette femme a eu l'amabilité de nous donner sa recette pour faire disparaître les tristes restes du mari mort. Tout d'abord, découpez-le en morceaux. Faites-les mijoter dans un bain d'épices, puis faites cuire les bouts de chair dans une casserole. Et pour finir, jetez les restes aux ordures, comme tout autre reste d'un plat normal.
Alors, on te remercie pour cette information savoureuse. Pourquoi tu nous parles de ça ? Explique-nous.
En regardant les titres, j'ai trouvé celui-là, quoi, une Pakistanaise qui tue, découpe et cuisine son mari, et ça m'est un peu resté en travers de la gorge.
T'as eu du mal à digérer cette
histoire-là. Voilà, c'est ça.
D'accord. Il faut savoir quand même que le cannibalisme et que la disparition de corps en découpant, etc., c'est le fait de beaucoup d'affaires judiciaires. Chez nous, ça peut peut ramener à Landru, ça peut ramener à Petio, ça peut ramener aussi aux Japonais, hein, qui avaient découpé en morceaux donc ces victimes dans la banlieue parisienne. Enfin voilà, ça existe. Hein. Bon, ben, enfin maintenant tu as fait la promotion de cette recette. Je ne sais pas si nous t'en remercions, Pierre. De façon plus sérieuse, Audrey va soulever un vrai problème de société.
Oui, donc dans les derniers résultats de l'étude Nutrinet Santé, les 18-25 ans apparaissent trois fois moins nombreux que les plus de 65 ans à suivre les recommandations nutritionnelles nationales.
On va y arriver, oui.
On parlerait d'effets générationnels qui inquiètent beaucoup les chercheurs. Seulement 16% des 18-25 ans sont proches des recommandations contre plus de la moitié des 65 ans. C'est une situation inquiétante, cela s'explique par la qualité de vie sociale. En effet, ces recommandations apparaissent moins bonnes chez les hommes, les ouvriers, les fumeurs, les personnes vivant dans le nord et l'est de la France et les familles aux revenus les plus faibles.
Alors, si vous le voulez bien, c'est sur ce sujet-là que nous allons échanger, puisque nous terminons toujours cette émission par un moment de discussion, d'échange, de débat. Tu soulèves une question à laquelle vous êtes évidemment sensible, puisque c'est les 18-25 ans, vous entrez dans cette tranche d'âge. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quoi, ces chiffres-là? Donc, Audrey, d'abord, pourquoi toi, t'as choisi de nous parler de cela?
Parce que bah, je trouve que oui, c'est vrai. Enfin, moi, personnellement, je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour. Donc oui, ça m'inquiète parce que je me dis, si on ne fait pas ça, enfin, qu'est-ce qui va nous arriver plus tard? Enfin, je sais pas, ça me fait peur.
Pour la santé?
Oui, pour ma santé.
Alors, on va être concret. On ne sait pas à qui parle actuellement. C'est Mademoiselle A. Même pas son nom. Que mange donc Mademoiselle A chaque jour? C'est quoi l'essentiel de ses repas?
Alors, Mademoiselle A, le matin, c'est... c'est un jus d'orange.
Bon, c'est pour l'instant, c'est des fruits.
Ouais, c'est des fruits. Le midi...
Qu'un jus d'orange le matin?
Oui.
C'est tout?
Bah oui.
Non.
Si.
Vous mangez quoi le matin, les autres? Allez, Chanice, qu'est-ce que tu manges le matin?
Je mange pas. Moi, je mange à 10h.
Tu manges à... Oh là là, prends des notes, parce que je crois qu'il y a de quoi alimenter l'article. Hein. Alimenter, mon Dieu. Oui.
Moi, je mange pas... Je me sens pas... j'arrive pas à manger le matin, donc je préfère prendre un goûter à 10h, ouais, par contre, oui.
Tu n'arrives pas à manger le matin?
Non.
C'est incroyable. Oh, mais je pense qu'on va entendre des choses sympathiques, là. Laurine, toi le matin, oui.
Bah, ça dépend si c'est la semaine ou le week-end. Donc.
Bon, simplifie les choses si possible. Disons la semaine.
Du lait et des gâteaux.
Quel genre de gâteaux?
Des gâteaux petit déj.
Ah non, fais pas de marque.
Ah,
y a pas,
ah non, j'allais dire avec des fruits, enfin des pépites de chocolat dessus.
D'accord, sympa, il est midi, des poussières là, oui. Pierre, pour avoir un garçon, qu'est-ce que tu manges toi le... Ah bah toi, t'es bah, ici, toi, de toute façon.
Ouais, je suis interne, ça.
Bah, qu'est-ce qu'on vous sert ici en petit déjeuner au lycée?
Oh là là,
il y a tellement de choses. Donc, alors, buffet, j'ai du mal à prendre.
On a le droit. Il y a différents choix de céréales, chocolat chaud, café, bon, qui est pas toujours très très bon d'ailleurs. Et s'il est à quand même le mercredi matin, on a le droit soit à un croissant, soit à un pain au chocolat, ouais. Chacun. Mais bon, sinon il y a aussi le traditionnel verre de jus d'orange bien vu. Un seul par personne, bien sûr.
Ouais, ouais, normal, oui.
Voilà.
Alors, c'est la deuxième marque qui est citée. Oui. Et donc, là-bas, ça reste quand même le pain, le beurre, je suppose.
Oui, sinon, oui.
Voilà. Hein, ce qui est quand même la base du petit-déjeuner petit-déjeuner français. Antoine, toi, qu'est-ce que tu consommes le matin?
Bon, ça dépend des matins, mais souvent, je n'ai pas le temps de manger le matin. Donc,
tu n'as pas le temps?
Non. Je suis souvent en retard le matin, je ne suis pas très matinal. Et sinon, je préfère manger... tout au long de la journée.
Aïe. Ah oui, il y a un vrai problème. Hein. Stéphanie, de ton côté, qu'est-ce que tu consommes le matin?
Moi, je mange des céréales avec du jus d'orange et puis voilà.
Quel genre de céréales? Toujours les mêmes ou...
Oui, toujours les mêmes.
Ouais.
Au chocolat.
Au chocolat.
Oui.
Ah oui. Qui est-ce qui... Justine?
Moi, c'est généralement un café, un fruit.
Quel genre de fruit?
Bah, en ce moment, c'est plus les clémentines, mais ça peut être une pomme, ça peut être...
Est-ce que tu es comme moi, Monsieur L, à sélectionner les fruits en fonction du courage que tu as à les éplucher. Moi, plus c'est simple à manger, plus il y a des chances que j'en mange. Si c'est compliqué, si on se met du jus partout, j'ai pas le courage.
Bah, c'est vrai que quand il y a clémentine, c'est facile à éplucher. Donc, voilà. Mon choix va plus se tourner vers là. Mais sinon, après, c'est les fruits de saison, vraiment. C'est
ouais. Quels sont les fruits que vous consommez
Aucun. Les pommes.
Les pommes. Manger des pommes.
Oui. Les pommes. Les tous pommes. Les pommes.
Pourquoi les pommes?
Parce que c'est pratique à manger. On peut l'emmener partout déjà.
Ouais.
Et puis je sais pas, j'aime bien le goût. C'est frais en plus.
C'est frais. Oui, un petit peu de jus. Et c'est facile à manger.
Ouais,
hein.
Pas de problème.
Chanice.
Tous
les fruits.
Ouais.
T'as des préférences
Les fruits exotiques.
Les fruits exotiques. Pourquoi les fruits exotiques?
Bah...
Parce qu'il y a un peu de rêve avec ou
Non, parce que j'ai été bercée là-dedans, donc ouais. Je sais beaucoup plus ce que je mange et ce que j'apprécie. Voilà.
C'est un petit plaisir de racines culturelles.
Voilà. Alors,
en même temps, ouais. Alors, on revient là sur ces questions de repas. Donc, on le voit au niveau des petits déjeuners, y a un petit peu de tout en fait dans vos pratiques. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez manger? Par exemple, Antoine, tu nous dis, moi, je grignote toute la journée. Qu'est-ce que tu grignotes?
Bah, ça dépend, mais par exemple, si je suis chez moi, ça peut être un fruit ou des céréales, n'importe quelle heure.
Ouais. Et faut qu'on te croie là.
Non, mais c'est vrai, ça dépend des ça dépend des heures, mais après, ça peut être des barres chocolatées aussi.
Ah
mais...
oui, t'es sûr que t'as donné le bon ordre?
Non.
Non, mais on le sait bien, les Français mentent systématiquement sur les histoires de repas. C'est comme à la télé. Hein, c'est comme pour la télé. Tout le monde dit il faut des émissions culturelles. Ah, oui, les émissions culturelles, je regarde. Et quand on regarde finalement tous les repérages d'écoute, on s'aperçoit que tout le monde regarde les séries, les films, les variétés. Et que les émissions culturelles, il n'y a pas grand monde à les regarder. Et en bouffe, c'est pareil. On dit ah oui, les Français mangent mal. Bon, mais moi. Puis quand on regarde le mais moi, souvent, on se ment à soi-même. Hein.
Oui.
il l'a avoué, le bougre. Lise, toi par exemple, dans la journée, tu grignotes aussi ou pas?
Ça m'est arrivé il y a quelques années, mais non, j'ai arrêté complètement.
Pourquoi? C'est un choix, c'est lié au rythme de vie?
Les deux. Parce que je prenais ça comme une détente et en fait, ça ne détend pas du tout, au contraire. Et c'est aussi un choix parce que c'est pas du tout sain et je préfère. J'ai réalisé que j'étais largement plus en forme en mangeant pendant les repas correctement qu'entre les repas un peu n'importe quoi.
Est-ce que vos parents sont très regardants sur la façon dont vous consommez, sur ce que vous mangez? Est-ce qu'ils y font attention? Est-ce qu'ils vous donnent des recommandations, voire des réprimandes?
Bah ouais, ça, bah, en fait ça dépend des fois, mais quand tu nous vois faire par exemple, moi je sais que quand ma mère me voit grignoter dans la journée, elle va me dire tu peux pas manger mieux par exemple le midi ou le soir au lieu de manger des cochonneries toute la journée. Quoi.
Et le midi ou le soir, quand on arrive au menu on va dire classique avec une petite entrée quelconque, là, une viande, un poisson ou des légumes et un dessert, est-ce que cette logique-là est une logique qui est pour vous importante ou pas? Le fait de le repas traditionnel à la française. Pierre.
En fait, non, je pense que ça dépend des personnes parce que il y a des personnes qui ont peu d'appétit. Moi, j'ai du mal à faire 3 gros repas par jour. Je pourrais en faire 10 petits dans la journée, hein, y a pas de problème, mais j'ai du mal à faire. Je peux pas manger trop d'un coup, en fait.
D'accord. Écoutez, c'est pas tout ça, mais il va bientôt aussi falloir qu'on aille manger. Donc, on va en rester là dans le cadre de cette émission avec Justine, Laurine, Antoine, Stéphanie, Chanis, Lise, Pierre, Audrey, avec Nathalie à la technique pour cette hebdo des lycéens de ce jour, sur lequel vous l'avez vu, des sujets très divers ont été abordés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Pierre qui sera à ma place pour l'animation de cette même émission. Vous verrez, ce sera vachement mieux. Allez, au revoir.
Au revoir.